Salut à tous et bienvenue au Balado, une production des étudiants et étudiantes de troisième année du baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et à la santé de la très, mais très prestigieuse Université de Montréal. À nos fans de partout dans le monde, on vous salue. Que retrouve-t-on dans cette quatrième saison du Balado? Comme son nom le porte bien, cette balado traite des sujets d'actualité pour nos adolescents. Ces belles bébites qu'on aime un peu, parfois, et à la folie. Bref, serrez vos étriers bien comme il faut sur vos fixés, les amis. On démarre en trompe. Bonne écoute.
Bonjour et bienvenue au podcast Le Balado. Je me présente, je m'appelle Audrey et je suis actuellement une étudiante dans le milieu de l'enseignement de l'éducation physique et à la santé. Dans le fond, je suis ici pour aborder un sujet que j'ai vu qu'il y avait vraiment comme cette réalité-là dans nos écoles. C'est le fait des adolescents et de la consommation de boissons énergisantes. Dans le fond, cette réalité, elle me pousse à me poser des questions par rapport à leurs habitudes, leurs préférences, puis leur mode de vie. Puis je pense que avoir des réponses à ces questions-là va vraiment m'outiller comme enseignante afin de les aider. J'ai eu ce petit questionnement-là, cet enjeu-là, je l'ai vu en écoutant le podcast, Sexe Oral. Il y avait un pharmacien qui répondait à plein de questions, puis qui a amené justement cet enjeu-là des boissons énergisantes. Puis j'ai remarqué que en côtoyant les jeunes dans les écoles secondaires, ce type de boisson-là est fréquemment consommé. Puis pour vrai, je vais être honnête avec vous, là, j'en ai déjà consommé moi aussi étant adolescente, donc ça m'a poussée à me poser des questions là, par rapport à cet enjeu-là. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai amené avec moi trois expertes dans cette matière, sur ce sujet-là. Ils ont fait des recherches vraiment pertinentes. Donc, j'ai Madame Ouellette ici.
Bonjour, bonjour.
J'ai Madame Labrie.
Bonjour.
Et j'ai Madame Boutin-Bruce.
Bonjour.
Dans le fond, j'avais vu que les boissons devenaient vraiment de plus en plus attrayantes dans les écoles. C'est vraiment une consommation qui devenait de plus en plus grandissante dans les écoles. Puis je pense que d'avoir des réponses à ces questions-là par rapport à la consommation va pouvoir m'aider à faire un peu de prévention dans les écoles pour ce sujet-là. Donc, c'est pourquoi j'ai posé certaines questions à mon public sur mes réseaux sociaux pour avoir c'est quoi leur questionnement par rapport à ça. Puis, la première question que j'ai eue, si ça vous va, Madame Labrie, je vais commencer avec vous. C'est par rapport à quelles sont les tendances actuelles en matière de consommation de boissons énergisantes parmi les jeunes.
Oui, donc en fait, là, selon la SPQ en 2015, là, les boissons énergisantes sont surtout populaires chez les jeunes de 15 à 24 ans. Il y avait même eu une étude là, réalisée en 2016-2017 sur la santé des jeunes du secondaire qui nous démontre qu'un élève sur quatre va consommer occasionnellement des boissons énergisantes. Là. Ça, cette étude-là a été faite par l'Institut de la statistique du Québec en 2018. Alors là, c'est quand même très alarmant. Là. Puis il y a même 61% des élèves qui affirment en avoir déjà consommé. Alors ici, c'est pas nécessairement toujours, là, mais il y a quand même 61% des élèves qui en ont déjà consommé. C'est ça. Ensuite, il y a même, là, on a vu, c'est quoi cette statistique-là? Laissez-moi un moment. Oui, c'était 1,7% des jeunes qui consommaient des boissons énergisantes quotidiennement, donc en deux à tous les jours. Alors ça, c'est vraiment alarmant. Là. Ça, c'est des statistiques qui datent de 2020 et 2021.
OK, mais c'est pas pour vous interrompre, Mme Labrie, mais on s'entend que 1,7%, là, ça me semble quand même un pourcentage faible, non?
Oui, c'est sûr là, que 1,7%, c'est pas énorme comme pourcentage, mais on doit vraiment garder en tête que ça représente les jeunes qui en consomment à tous les jours. Alors ça, c'est quand même alarmant. Là. T'sais, nous, rendus à l'âge adulte, là, on est plus habitués de voir des adultes qui consomment du café ou quoi que ce soit à tous les jours. Mais là, on parle d'adolescents dans des écoles secondaires. Alors le pourcentage prend vraiment une proportion plus grande, là. Il y a même, là, on voit même une augmentation parce qu'en 2014 et 2015, les jeunes qui consommaient des boissons énergisantes à chaque semaine étaient de 8%. Et en 2020-2021, il est passé à 10% selon Statistique Québec. Alors, c'est une augmentation de 2%. Alors, on voit vraiment que c'est un enjeu qui est présent dans notre société, là.
Pour une augmentation de 2%, vous trouvez vraiment que c'est un enjeu? C'est juste la question que je me pose là, par rapport à est-ce que c'est vraiment un enjeu actuel?
Bien, c'est sûr que, écoutez, 2%, c'est pas énorme, mais ça reste que nous, on fait des campagnes de prévention. On essaye de prévenir ce problème-là, puis en fait, le pourcentage augmente. Donc, clairement, là, on doit changer notre façon de faire, là, parce qu'on veut voir une diminution, là, nous, en fait, là. Puis sinon, tu sais, c'est sûr qu'on parle souvent des boissons énergisantes, mais il faut pas oublier le café. La caféine est vraiment souvent oubliée, là, mais c'est quand même très présent. Puis il y a une très grande quantité de jeunes qui en consomment régulièrement. Il y a même une étude là, par l'American Academy of Pediatrics en 2014 qui démontrait que 73% des personnes âgées entre l'âge de 2 à 25 ans, 22 ans, pardonnez-moi, consomment de la caféine à tous les jours. Mais là, quand on parle de consommer de la caféine, c'est pas juste dans le café. On en retrouve dans les boissons gazeuses, comme dans le Coca-Cola, dans le café, évidemment, le chocolat ou même les boissons énergisantes comme on a parlé. Puis finalement, il y a même le National Coffee Association qui étudie la quantité de buveurs de café chez les jeunes de 13 à 18 ans. Donc là, on est vraiment dans le public cible, 13 à 18 ans. Mm-hmm. En 2014, c'était 23%. 2016, pardonnez-moi, 31%. Et finalement, en 2017, 37%. Donc okay, encore là, ouais, on voit une autre augmentation là, dans la quantité de buveurs des boissons énergisantes.
OK. Donc là, je comprends que c'est quand même un enjeu présent, là, la boisson énergisante chez les jeunes. Mais je me demande qu'est-ce qui rend ça aussi attrayant? T'sais, c'est quoi? Est-ce que Mme Labrie, je vais encore m'adresser à vous. Là, est-ce que vous savez c'est quoi comme les ingrédients clés qu'on retrouve dans ces boissons-là qui la rendent si attrayante pour les jeunes?
Bien, sincèrement, là, un des ingrédients clés, c'est sûr que c'est des boissons énergentes sucrées. Alors, le sucre, là, est vraiment présent. Puis, c'est sûr que les compagnies de café et des boissons gazeuses énergisantes, ils mettent sur le marché une très grande variété de produits, là, avec donc plein d'ingrédients variés qui donnent des belles couleurs, des goûts sucrés, originaux, qui suivent les tendances en plus. Alors ça influence les jeunes. Par exemple, on pense à Starbucks, tu sais, c'est drôle qu'on en parle, là. Toi, t'as ton café, ouais, c'est ça, t'as ton café Starbucks, ouais, avec toi aujourd'hui. Tu sais, c'est super reconnu, là, la compagnie Starbucks à travers le monde, puis une très grande variété de café. Par exemple, en ce moment, ce qui est tendance, c'est le petit latte à la citrouille épicée. Ça, c'est dans cette boisson-là, on retrouve 75 mg de caféine et 38 g de sucre. Ce qui est semblable à toutes les autres boissons, souvent, il y a du sucre. Sinon, il y a aussi Red Bull, je ne sais pas si vous connaissez.
Ah ben oui, Red Bull donne des ailes.
Ben oui, exactement. Red Bull là, est super populaire aussi. Puis eux, dans la canette, il y a 80 mg de caféine, 27 g de sucre.
Aïe.
Ouais. Puis même chose, là, ils mettent des différentes saveurs, éditions limitées. Par exemple, au Canada, en ce moment, on a 11 saveurs disponibles. Puis en plus, ils mettent de l'avant leurs nouvelles saveurs selon les tendances, comme j'ai dit. Comme là, en ce moment, on est à la saison des pommes, puis il y a une nouvelle saveur, figue pomme.
Miam.
C'est ça, pour attirer les jeunes. Tu vois, tout de suite, tu dis miam.
Ben oui, je comprends.
C'est ça. Alors, c'est ça. Donc, il y a vraiment une ressemblance là, entre ces deux marques-là là, qui attirent les jeunes. Donc, voilà, c'est vraiment attrayant là, pour les jeunes.
OK, donc je comprends que, tu sais, pour le plaisir des papilles gustatives, le sucre, les jeunes aiment ça. Mais je pense que j'ai entendu parler aussi du fait qu'il n'y a pas juste le goût là, qui est attirant chez les jeunes. J'ai posé des questions à mon auditeur, justement, puis ils m'ont parlé aussi du fait que ça peut être quand même perçu, les boissons énergisantes, comme un moyen d'améliorer la performance académique et sportive. Je m'adresse à vous, Mme Boutin-Blouse. Est-ce que vous pouvez m'éclairer un peu plus sur les moyens d'améliorer, dans le fond, l'utilisation des boissons énergisantes?
Oui, bien sûr, mais en fait, j'ai commencé par vous donner quand même des statistiques que j'ai trouvées fort intéressantes. Et dans le fond, en 2015, il y a une étude qui a été faite et qui a été approuvée par le comité de recherche de l'Université de Waterloo. Et cette étude, dans le fond, interrogeait des Canadiens âgés de 12 à 24 ans. Et parmi les résultats assez préoccupants, on a vu que, dans le fond, la plupart des participants étaient en accord avec le fait que la caféine pouvait les aider à étudier. Puis également, une autre conclusion par rapport à cette même étude serait que plus du tiers des jeunes ont affirmé que consommer des boissons énergisantes en faisant de l'activité physique était sécuritaire et que la consommation de caféine pouvait les aider à faire du sport.
OK.
Donc, on voit ici vraiment que c'est alarmant. Mm-hmm. Puis dans le fond, moi, ce que je vais me pencher, c'est plus sur le fait, est-ce que c'est vrai? Donc, est-ce que c'est vrai tout ça? Donc, pour ce qui est des effets de la caféine sur le corps, évidemment, la caféine, c'est un stimulant. Il y a des effets notamment sur le fait que ça va accroître la vigilance, ça va atténuer certains effets du manque de sommeil. Également, ça va augmenter, comme j'ai dit, la vigilance. Et plus de vigilance, souvent, c'est synonyme de plus de concentration et plus d'énergie. Donc, les adolescents vont être portés à croire qu'ils pourront être capables de plus étudier. Cependant, plus étudier ne signifie pas de meilleurs résultats scolaires. Donc, en effet, selon mes recherches, la consommation de boissons énergisantes perturbe le sommeil et augmente le risque d'insomnie. Donc, même si, en fait, pour résumer ça, la performance scolaire serait affectée négativement par la consommation de boissons énergisantes, notamment en raison de l'insomnie et non ce que les adolescents pensent, dans le fond, sont totalement, malheureusement, dans le champ par rapport à ça. Ils pensent vraiment que ça peut les augmenter à aider pour leur étude, mais leurs résultats démontrent le contraire.
OK, puis par rapport aux performances sportives, est-ce que tu as des données par rapport à ça?
Oui, bien sûr. Dans le fond, selon mes recherches, évidemment, encore une fois, la caféine a plusieurs actions sur le corps. Par exemple, elle va réduire la sensation de fatigue associée à l'effort quand on fait du sport. Et elle va augmenter l'attention et la vigilance, comme j'ai dit précédemment. Et va améliorer les temps de réaction et retarder le délai avant l'épuisement. Donc, selon la science, oui, la caféine pourrait avoir des résultats positifs. Cependant, ça dépend vraiment du type d'effort. Par exemple, et ça serait vraiment pour des sports d'efforts de courte durée. Donc, par exemple, des sprints plutôt qu'un long marathon.
OK, je comprends.
Donc, ça pourrait être, dans le fond, pouvoir les aider pour faire du sport. Cependant, il y a vraiment des nombreux effets secondaires comme la nausée, l'anxiété, l'insomnie. Et surtout chez les adolescents, ces effets secondaires-là pouvaient être encore plus graves, et surtout notamment en raison des importantes doses de caféine. Donc, en bref, par rapport au sport, les adolescents, oui, ont raison de croire que ça pourrait améliorer leur performance sportive, mais seulement sur un certain type d'activité physique. Mais selon moi, avec tous les effets secondaires, ça ouvrait un peu la peine.
OK. Puis maintenant, là, je comprends que ils utilisent ça, dans le fond, pour leur performance physique puis leur performance académique. Mais on va s'entendre que la publicité puis le marketing ont quand même une bonne influence sur nos jeunes. Est-ce que tu as des données par rapport à ça?
Mais oui, évidemment. Et dans le fond, contrairement, par exemple, aux autres boissons de café, par exemple, je fais les annonces de Tim Hortons, les annonces de boissons énergentes vont être très différentes. Elles vont vraiment mettre l'accent sur un mode de vie qui s'inscrit dans la culture des jeunes adolescents. Donc, par exemple, et je t'invite aussi, Audrey, à aller voir le site de la compagnie Monster Energy qui vend justement les boissons Monster. Puis quand tu ouvres la page, vraiment, plus de la moitié de la page d'accueil va être consacrée à la publicité de différents événements, que ce soit, par exemple, je ne sais pas, le UFC, donc l'Ultimate Fighting Championship. Excusez mon anglais, c'est pas très développé non plus. Donc, il y a vraiment beaucoup de publicité pour les sports extrêmes et dans le fond, les sourds même, le hip-hop, par exemple, l'artiste Soulja, qui est québécois. Donc, vraiment, peu de place par rapport à la vente de leurs produits. On y retrouve seulement une photo d'une boisson énergisante qu'ils vendent. Donc, il y a justement cette stratégie-là qui est utilisée. Puis, là, il y a d'autres stratégies, comme par exemple le fait que les publicités mettent l'accent sur la promotion, la stimulation de l'énergie, la réduction de la fatigue, justement pour que les adolescents voient le besoin d'en consommer, notamment aussi pour fêter toute la nuit.
OK. Puis, mettons qu'on parle là, la fameuse application TikTok. On en voit des choses sur cette application-là.
J'espère que tu as vu récemment, il y a eu comme une tendance de la consommation de pré-entraînement en poudre. Donc, ça, c'est vraiment dangereux, mais ça a été tellement populaire chez les adolescents d'en consommer. Dans le fond, c'est une tendance de comme cuillère à sec. Mais ça a été tellement populaire, mais les adolescents n'ont même pas été conscients. C'est vraiment dangereux de faire ça, notamment. Dans le fond, en raison des très fortes concentrations de caféine, également les autres produits, c'est vraiment très dangereux. C'est important de les diluer. Donc, ça, c'est un exemple de comment juste une plateforme de TikTok peut avoir autant d'influence sur le comportement des adolescents.
Je comprends que les médias sociaux, là, on le sait pas mal tous, on commence à comprendre que les médias sociaux ils ont quand même un grand enjeu sur l'influence des adolescents, excusez-moi. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi des facteurs sociaux ou culturels là, qui influencent quand même la consommation. Tu sais, entre eux, ils doivent s'influencer. Est-ce que tu en sais un peu plus sur ce sujet-là?
Ben oui, évidemment. Et dans le fond, il y a une étude des fois intéressante qui a été faite par le Programme canadien de surveillance pédiatrique. Et il a mené un sondage relativement aux raisons qui poussent les jeunes à consommer. Et l'une des trois raisons principales était la pression exercée par les camarades. Je vais en revenir plus tard, mais dans le fond, j'ai juste fait une petite parenthèse également sur la famille qui est quand même importante. Et dans le fond, évidemment, tout au long de leur enfance et de leur adolescence, les parents sont très importants pour les jeunes, évidemment. Puis, dans le fond, il y a une étude qui a dit que, dans le fond, les enfants dont les parents n'exercent aucun contrôle sur la consommation alimentaire de leurs enfants, et dans le fond, faisant en sorte que les adolescents étaient plus enclins à consommer des sucreries ou des boissons sucrées, notamment des boissons énergisantes. Donc, puisque les parents sont un modèle pour eux, c'est sûr que s'il n'y a aucun encadrement, ça va avoir un impact.
OK.
Également, l'autre facteur, comme j'ai dit, c'était les camarades, vraiment les amis. Là, souvent, on voit au secondaire, là, les, le désir de joindre à comme des groupes d'adolescents populaires. Mm-hmm. C'est vraiment comme un enjeu qui est très présent. Mais qui dit populaire dit souvent consommation d'alcool et de drogue. Mm-hmm. Et notamment, une des tendances actuelles est de conjuguer alcool et boissons énergisantes dans les fêtes pour avoir comme une autre sensation de stimulation pendant que justement ils font la fête. Et malheureusement, les jeunes s'encouragent entre eux à rester toute la nuit en consommant ces boissons-là. Donc ça, c'est vraiment un exemple de comment les pères peuvent exercer de la pression, mais c'est vraiment présent, surtout à l'adolescence.
Oui, mais c'est ça, je me rends compte, là, tu sais, on envoie des boissons énergisantes alcoolisées, là, qui sont vendues dans des raves ou, tu sais, l'histoire de la Four Loko, là, des choses comme ça qui sont vendues. C'est vraiment intéressant, mais là, on a parlé beaucoup de pourquoi les adolescents en consomment, mais Madame Ouellette, je vais m'adresser un peu à vous en se demandant, c'est bien beau là, de savoir qu'ils en consomment puis qu'ils en consomment beaucoup, mais c'est quoi les risques liés à une consommation excessive de ce genre de boissons là, chez nos adolescents?
Mais oui, certainement, je peux essayer de vous éclairer un peu sur le sujet. Là, c'est sûr que c'est important de comprendre que les risques vont être vraiment plus associés à une consommation excessive, comme que vous l'avez mentionné. En fait, là, le docteur Martin Junot, qui est cardiologue clinicien et chercheur à l'Institut de cardiologie de Montréal, s'est déjà un peu penché sur le sujet. Puis, il en a ressorti que les effets vont être vraiment sur le système cardiovasculaire, sur le sommeil, sur le stress et sur l'irritabilité.
OK, tous ces facteurs-là?
Oui, vraiment, tout ça peut venir en compte. On sait que les ingrédients principaux vraiment qui vont être dans les boissons énergisantes, ça va être la caféine et le sucre aussi. Mm-hmm. Puis là, c'est sûr que la caféine va agir comme un stimulant. Puis c'est certain que quand que tu consommes un stimulant, ça va avoir des effets sur le système cardiovasculaire. Donc, ça va pouvoir augmenter le rythme cardiaque. Ça va aussi augmenter la charge qui est demandée, la charge de travail qui est demandée à ton cœur. Puis, il peut aussi avoir des effets sur, en fait, une diminution, pardonnez-moi, au niveau de ton débit sanguin. Ça, c'est encore docteur Junot qui nous a éclairé à ce sujet-là. Donc, fait que ça, c'est vraiment plus des effets au niveau de ton système cardiovasculaire. Puis là, on s'entend que, je vais faire juste une petite comparaison bien rapidement, il va avoir plus de caféine généralement dans une boisson énergisante que dans une tasse de café.
Ah ouais, ouais, ça, tu vois, je savais pas.
Ouais, c'est pas tout le temps comme ça, là. Ça dépend un peu de la quantité de la boisson énergisante, mm-hmm. mais c'est certain qu'on peut retrouver ça. Donc, si tu en consommes deux, par exemple, tu vas atteindre plus rapidement la consommation recommandée de caféine, par exemple. Sinon aussi, c'est certain qu'il y a les effets que je vous ai parlé tout à l'heure, mais selon une étude, là, on a vu vraiment qu'il y a 50 % des consommateurs qui ont avoué avoir au moins un des effets indésirables que je vous ai dit tout à l'heure après avoir consommé une boisson énergisante.
OK, c'est quand même beaucoup.
Oui, fait qu'on parle vraiment de 50 % fait que c'est ça. Comme j'ai dit, ça peut être le rythme cardiaque qui est accéléré, ça peut être l'insomnie. Il y en a aussi que c'était des maux de tête, nausées, vomissements, toutes des choses comme ça. Puis, c'est ça. Fait que c'est quand même assez inquiétant de voir qu'une personne sur deux vraiment qui en consomme peut avoir des effets. Sinon, ça peut aussi avoir des effets qui vont être un peu plus psychologiques, comme au niveau de l'anxiété, de la nervosité, mm-hmm. l'agitation. Puis, c'est ça. Ça, c'est selon Tox Québec, hein, en 2017, qui ont sorti ça. Puis, un autre facteur qui peut être assez important, c'est au niveau de la dépendance. Parce que là, on sait, si tu en consommes quand même beaucoup, ça peut te créer une dépendance. Puis là, tu vas tomber dans le cercle vicieux. Là, ça ne s'arrête plus après ça. Puis, c'est certain que tu peux développer une dépendance si tu consommes vraiment une grande quantité de caféine. Mais ils ont noté, encore une fois, Tox Québec, qu'une si petite dose que comme 100 mg de caféine par jour peut te faire développer une dépendance qui va aussi t'amener tous ces effets-là.
Ah, oh, ouais! 100 mg, puis je développe quand même une...
Ouais, 100 mg, si tu le prends de manière régulière, là, ça va pouvoir mener une dépendance, vraiment.
Mon Dieu, OK. Là, je vois que, mon Dieu, il y a beaucoup d'effets indésirables que même moi, là, à être honnête, là, je les connaissais pas toutes, ça me surprend quand même. Mais là, je peux pas croire qu'avec tous ces effets indésirables-là qu'on peut avoir avec une consommation de boissons énergisantes, il n'y a pas de réglementation ou de restriction qui est mise en place pour limiter l'accès aux jeunes, parce que les jeunes peuvent s'en procurer, là, selon moi, comme ça, là, des boissons énergisantes.
Oui, en fait, tu as tout à fait raison. Là. On sait qu'au Canada, il y a des lois qui interdisent, par exemple, la vente d'alcool d'alcool ou de cigarettes adolescents, en fait aux personnes de 18 ans et moins, mais c'est pas le cas pour les boissons énergisantes. Puis fait que c'est vraiment facile pour les adolescents de s'en procurer. C'est certain qu'il y a des recommandations qui ont été faites par Santé Canada de dans le fond, ils recommandaient de pas consommer ces boissons-là aux adolescents, mais il y a pas de loi vraiment qui est imposée pour ça. Le gouvernement, là, vraiment, il a essayé de limiter la vente des produits. Il a recommandé ça aux entreprises. Puis en fait, il y a juste l'entreprise québécoise Couche-Tard, là, je crois qu'on le connaît tous bien.
Des
mais oui, certainement. Eux, ils ont décidé d'imposer un âge limite de 16 ans pour la vente de ces boissons-là.
Un âge minimum de vente à 16 ans?
Oui, c'est ça, okay. C'est ça que je voulais dire. Ouais, fait que tu devais avoir 16 ans et plus pour pouvoir t'en procurer. Mais c'est vraiment la seule institution au Québec qui ressort d'avoir mis cette limite-là. C'était encore vraiment là.
C'est surprenant là, de voir ça.
Oui, vraiment. Mais en fait, il y a l'Association pour la santé publique du Québec, là, la SPQ, que lui, ben, en fait, l'association a fait plusieurs recommandations pour avoir un encadrement plus strict, là, parce que là, on trouve que ça n'a pas vraiment de sens. Là,
certainement pas.
Aussi accessible. Là. Par exemple, eux, ils aimeraient ça interdire le terme boisson énergisante et énergétique. Puis, ils voudraient qu'on dissocie ça de la performance. Parce que là, c'est ça aussi qui a un intérêt. Là, je pense qu'on en a parlé un peu plus tôt. Là.
Oui.
Fait que c'est ça. Il faudrait essayer de limiter ces mots-là. Puis aussi, il faudrait plus nommer ça comme boisson qui contient des stimulants. À place de dire que c'est une boisson énergisante. Comme ça va être moins associé directement. Puis sinon, il y a aussi des projets de loi un petit peu partout là, qui ont été faits pour vraiment interdire la vente aux personnes de 18 ans et moins. Là. Ça, il y a déjà des pays que pour eux, là, c'est illégal de vendre une boisson à une personne qui n'est pas majeure. Ouais.
Ah,
par exemple, les pays plus scandinaves, là, en Suisse, en Suède, Lituanie, Lettonie, ça, c'est tous des pays où est-ce que tu ne peux pas vendre à une personne de 18 ans et moins. Puis, il y a aussi des projets de loi en Caroline, au Connecticut, au Royaume-Uni. Puis, c'est ça. Mais je pense que c'est quand même important qu'on se mette à regarder qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays, parce que peut-être qu'il va falloir qu'on commence à prendre exemple sur ça, là.
Ben oui, hey, je suis 100% d'accord. Ben là, je vais conclure un peu sur ce sujet-là. Merci beaucoup les filles d'être venues, c'était vraiment apprécié. Pour vrai, ça m'a permis d'en apprendre un peu plus sur pourquoi mes jeunes secondaires consomment ça en ce moment. Puis tu sais, je pense qu'en tant que future enseignante en éducation physique, ça va me permettre d'être un peu plus outillée par rapport à ça. Là, par contre, je comprends les facteurs, mais je pense qu'à mon prochain podcast, je vais peut-être essayer de faire venir des personnes ou peut-être un peu plus dans mon domaine en éducation physique pour voir comment qu'on pourrait faire une certaine prévention envers les jeunes, parce que je pense que c'est encore un sujet d'actualité. Mais en tout cas, merci beaucoup les filles d'être venues, c'était vraiment agréable.
Merci.
Merci.
Merci. Merci à tous d'avoir écouté mon podcast Le Balado. Ça m'a vraiment permis de répondre à ma question forte qui était, dans le fond, pourquoi les boissons énergisantes sont si attrayantes pour nos adolescents. J'ai vu, dans le fond, les ingrédients clés, là, le sucre, là, que clairement, ça l'aide la consommation. J'ai vu pourquoi les jeunes consommaient ça, t'sais, pour les effets psychologiques et les effets physiques, là, donc pour l'académie et les aspects sportifs. On a vu aussi que, sérieusement, le marketing et les publicités ont clairement un enjeu là, qui est dominant là-dedans. On a aussi on a vu les facteurs sociaux, culturels, les amis, la famille jouent quand même, mais ont quand même une bonne influence là, dans la consommation. On a vu aussi les effets d'une consommation excessive là, que ça a sur tous les systèmes intérieurs des jeunes, là, cardiaques, puis aussi sur les effets psychologiques, là, l'anxiété qui est quand même un grand enjeu actuel. On a vu aussi, pour finir, le fait que, mon Dieu, il n'y a aucune réglementation là, au Québec ou de restriction en ce moment qui a été mise en place, c'est seulement des recommandations. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important pour nous, pour moi, en tant que future enseignante en éducation physique, d'essayer de trouver comment je peux aider nos jeunes, dans le fond, faire de la prévention. Si le gouvernement ne veut pas s'en occuper, nous, dans les écoles, il faut au moins sensibiliser les jeunes à ça. Donc, merci à tous et on se revoit dans un prochain podcast.